À Québec. Et elle porte un nom. Le Centre sportif Empire. Profitez du plus gros rabais de l'année et remettez-vous en forme avec notre programme d'entraînement adapté à vos besoins par des vrais professionnels. Aucun frais initiaux et 100$ de rabais sur l'abonnement annuel. Aussi, informez-vous sur les classes de Fit Challenge, cours par enfant, boxe, préparation physique en circuit et plus. Jeunes et moins jeunes, professionnels ou amateurs, le Centre sportif Empire en a pour tous les goûts. 700 Néré Tremblay, Sainte-Foy, 683-1056. Wow.
18 Radio Québec. Vive la Beauce. La radio la plus écoutée de Québec. Trois-Rivières. Numéro 1. Bellechasse. Portneuf. Point final.
98.1.
La fameuse Choix. Radio X. Morin. Live.
Nous, on est prêts dès demain matin à s'asseoir avec
Morin.
Pour redémarrer un nouveau cycle de dialogue.
Morin. Radio X.
Beaucoup de choses dans l'actualité sur le front de l'éducation. Ce matin, que ce soit dans les journaux ou à la télé, il y a une chose en particulier qui me fait réagir. C'est l'histoire des deux étudiants contre l'adhésion obligatoire. Je trouve ça courageux. Je trouve ça rafraîchissant. Je sais pas si, à quelque part, ça peut mener à quelque chose. Et pendant tout ce temps-là, le Québec se prépare pour un sommet sur l'éducation. J'ai hâte de voir ce qui va aboutir de ça, moi. Avec les carrés rouges lancés qui font le bordel dehors. Ça risque de brasser. Mais ultimement, on va se souhaiter qu'on en arrive à une décision intelligente, une décision dosée, en ligne. Et elle sera là parmi tant d'autres représentants et représentantes d'associations étudiantes. Martine Desjardins, la présidente de la FEUC. Bonjour, Madame Desjardins.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Très bien, vous?
Vous avez l'air essoufflé?
Non, s'inquiétez pas. On combat le froid comme vous, j'imagine.
OK, vous êtes pas dehors, là?
Non, vous inquiétez pas.
OK, parfait. Pierre Duchesne, le ministre de l'Enseignement supérieur, a mentionné plus tôt cette semaine. Ça va prendre un consensus à un moment donné, là. Tu sais, on comprend que les partis sont sur leur position. En fait, on a braqué les recteurs en leur imposant rétroactivement des coupures. Mais de l'autre côté, il y a les associations étudiantes, entre autres, parlons des radicaux lassés. Pour eux autres, c'est la gratuité. Dans votre cas à vous, je pense que vous l'avez exprimé très clairement, ça prend un ménage des universités à avoir demandé une contribution aux étudiants. Êtes-vous prête à faire un compromis à un moment donné? Jusqu'où vous êtes prête à aller pour en arriver à une entente là-dessus pour qu'on parle de d'autres choses?
En fait, justement, on travaille à des consensus depuis le début. On cherche une façon de s'entendre. D'ailleurs, juste pour montrer, là, il y a quand même certains pas qui ont été faits. La première rencontre, on a présenté la commission indépendante pour justement faire le ménage dans les universités, avoir plus de transparence, processus de reddition de comptes, qui est vraiment bon. Et on se rend compte que la première rencontre, les recteurs étaient très braqués contre cette idée. Et la dernière fois, on est arrivé à un consensus pour dire que on a des problèmes avec les processus de reddition de comptes dans les universités. Et là, c'est tout le monde qui s'entendait, même les recteurs. Donc, imaginez l'époque qu'on a fait. Donc, ça, c'est déjà une bonne avenue. Maintenant, il va falloir s'entendre sur l'évaluation des besoins des universités. Ça, c'est pas chose gagnée. Parce que, encore une fois, les recteurs qui nous disent, écoutez, le voisin a une Ferrari, nous aussi, on aimerait ça avoir une Ferrari, mais c'est pas tout, là, d'avoir des désirs comme ça, encore faut-il démontrer qu'on a besoin de plus d'argent alors que partout ailleurs, on coupe.
Mais vous avez été loin dans vos accusations à l'endroit des recteurs. Il y a, entre autres, la rectrice de l'Université de Sherbrooke, Mme Samoisette, qui dit, wow, là, ça va faire, là. T'sais, on nous accuse quasiment d'être des bandits, puis ce sont des accusations très graves, entre autres portées par la FEUC. Oui, peut-être qu'il y a des problèmes de gestion dans les universités, et très certainement qu'on peut tenter peut-être de mieux gérer les choses, mais à quelque part, fondamentalement, n'êtes-vous pas conscient et consciente qu'il faut contribuer davantage et au moins suivre l'indexation pour le coût de l'éducation au Québec, les frais de scolarité? Le gel n'est pas une option. Ça, là-dessus, on s'entend-tu que le gel n'est pas une option?
Ben, vous savez, on propose un gel des droits de scolarité, mais la facture étudiante, elle suit l'indexation depuis maintenant une quinzaine d'années. Et donc, ce qu'on propose, nous autres, c'est de maintenir justement cet élément-là. Et donc, on dit, nous croyons que les étudiants font largement leur part. D'ailleurs, les chiffres de l'expert qui est venu nous présenter les données du gouvernement nous donnaient raison sur deux plans. D'abord, les étudiants contribuent pas à seulement 13% de leur formation, c'est à 46% de leur formation.
Pardon?
Oui. Au niveau de la recherche et de l'enseignement, le fonds de fonctionnement qui sert pour les étudiants, c'est 46% qui est fourni par les étudiants.
Expliquez-moi ça, là. En médecine, mettons, un étudiant en médecine à McGill, là, lui, en payant 2 500 $ pour faire son cours à McGill, là, par session, il contribue à 50% de la formation?
La totalité, en fait, de l'argent que les étudiants donnent par année, c'est effectivement 46% des fonds de fonctionnement des universités qui servent à l'enseignement, à la recherche au service des étudiants.
C'est faux.
Sont payés par les étudiants. C'est énorme.
C'est faux.
Ben écoutez, vous résumez voir en fait la présentation de Mme Tremblay, c'est vraiment très intéressant et ça démontre aussi ce qu'on demandait au recteur de justifier, c'est-à-dire les transferts entre les fonds. Et d'ailleurs, c'est un des recteurs qui est allé poser la question à l'expert parce qu'on s'est rendu compte que dans les fonds de fonctionnement, il y avait à peu près là 238 millions supplémentaires. Et là, on est allé poser la question en disant que j'avais accusé à tort en fait les recteurs de faire des transferts. Et justement, Mme Tremblay qui a justifié en disant, écoutez, ça c'est avant les virements de fonds. Et donc, à la fin d'un état financier, oui, il y a des surplus dans les fonds de fonctionnement qui devraient servir à l'enseignement et à la recherche. Mais malheureusement, c'est transféré dans le béton parce qu'on préfère justement construire des nouveaux buildings plutôt que s'assurer d'avoir des professeurs déchargés de cours dans nos classes.
On construit des nouveaux buildings parce qu'il manque de fonds. Moi aussi, je trouve ça totalement débile, l'histoire de l'Université de Sherbrooke à Longueuil. Ça n'a aucun sens, même qu'on pourrait élaborer puis dire que l'Université de Rimouski à Lévis, c'est pas mieux, puis l'UQTR à Québec, c'est pas mieux. Là, toutes les universités...
Il y a plein de cas de figure comme ça, c'est incroyable.
Ah oui, c'est ça, mais ils se concurrencent, les universités, parce qu'au bout du compte, elles veulent des têtes de pipe. C'est une course au financement, ça, vous le savez, à un moment donné.
Exactement.
On veut du monde, donc on veut du monde, parce qu'il manque d'argent, les autres, ils courent après le monde.
En fait, c'est qu'ils veulent toujours plus. C'est entre vous et moi, on veut toujours plus d'argent. C'est d'ailleurs une des raisons qu'on dit, écoutez, si on constate qu'effectivement, c'est une problématique qui mène à des dépassements de coûts, à une course effrénée aux étudiants avec des coûts de publicité quand même assez formidables. On se souvient tous de l'Université de Montréal qui avait acheté là une publicité sur la Banque du Canadien où malheureusement, Pacioretty s'était étalé de tout son long devant cette publicité. Ça avait fait comme le tour du Québec à ce moment-là. Donc, on peut se demander mais à qui ça servait cette publicité. Et donc, on se rend compte, revoyons à la base, la grille de financement, elle ne fonctionne pas bien. Revoyons-la, mais puis assurons-nous qu'on finance adéquatement.
Mais de votre côté, pour qu'on en arrive à une entente et que ça ne soit pas un autre sommet inutile, vous devez bouger aussi. Vous devez bouger et faire votre part. L'histoire du 50% de la contribution, c'est du ballonné, cette affaire-là. C'est pas vrai que 2 500 $, à moitié de la formation de médecin, à McGill.
C'est plus que ça. En fait, les étudiants de médecine payent aussi des frais administratifs, des frais SE obligatoires.
Non, mais c'est 2 500 $ en médecine.
Non, ça monte beaucoup plus haut.
Hein? Non, je vérifie.
Oui, les frais administratifs à McGill, là, c'est 20% d'une facture. Fait que faites au moins même 25% en médecine. Et donc, si vous faites le 25% de 2 700, vous allez monter beaucoup plus haut. En fait, là, ils payent beaucoup plus que 2 700 $.
Mais le coût d'une formation en médecine d'un an à McGill, c'est évalué à combien, ça? Au moins 15 000, 20 000, certains. Si on regarde, par exemple, j'avais écrit une chronique là-dessus, là, étudier en médecine à Colombie-Britannique ou en Ontario. Par exemple, Wabeck Master à Hamilton, ça coûte beaucoup plus cher que ça. C'est du 15 000 $. C'est du 15 000 $.
Justement, on va regarder un peu, parce que c'est le recteur de l'Université de Montréal qui est sorti pour dire, écoutez, il faut qu'on fasse payer plus cher nos étudiants ici parce que là, on finance en fait les familles de riches. Mais prenons en fait son argumentaire. Il constatait lui-même que 50% de ses étudiants venaient de familles qui n'ont pas des parents qui sont médecins ou ingénieurs ou avocats. Et donc, ils viennent de familles moyennes, défavorisées. Ça veut dire qu'on a des meilleurs médecins. Si on se compare avec l'Ontario, on se rend compte qu'en Ontario, c'est plutôt l'inverse. C'est des étudiants qui proviennent de familles aisées, dont les parents sont déjà des médecins, qui vont aller faire des études en médecine. Et donc, c'est se poser la question, on va augmenter les frais de scolarité pour avoir les meilleurs médecins ou pour avoir les fils de médecins qui viennent étudier?
Mais les frais de scolarité au Québec sont les plus abordables au Canada et malgré ça, on a un taux de diplomation moindre, la fréquentation universitaire est moindre qu'ailleurs. C'est une question plus complexe que les frais de scolarité et l'accessibilité. C'est une question de famille, c'est une question de culture.
Tout à fait. Tout à fait, puis c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on dit il faut garder cette accessibilité-là parce que, notamment en région, c'est encore 70% des étudiants qui sont de première génération. C'est les premiers de leur famille qui vont à l'université.
Ouais,
on a un retard à rattraper, puis c'est en augmentant les frais de scolarité qu'on va arriver à rattraper ce retard-là. C'est comme l'argument inverse.
Mais en les haussant au moins, j'aimerais ça vous entendre dire ce matin que vous êtes ouverte au moins à l'indexation. C'est vers là que le PQ veut vous amener. Là. Au moins l'indexation, tout augmente. Non, c'est vrai. Vous allez à l'épicerie.
C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit...
Tout augmente. Il faut que vous suiviez la parole.
Ouais. Je comprends votre point, mais écoutez, c'est pour ça qu'on vous dit la facture, elle augmente. Les frais de scolarité augmentent. suivant l'indexation depuis des années. Et dans les cinq dernières années,
le montant des crédits, ça n'augmente pas.
En fait, les montants payés par les étudiants augmentent. Les montants des crédits, si vous parlez des droits de scolarité, oui, ont été augmentés dans les cinq dernières années. Ils ont augmenté de 30%. Ce qui est pas banal, c'est plus qu'une indexation, le 30%. Et donc, et plus les frais, des frais administratifs qui ont augmenté, qui ont fait augmenter la facture de 3 à 4% par année, les étudiants, depuis les dernières années, ont vraiment payé beaucoup plus de frais de scolarité que l'indexation.
Donc, c'est le gel. Vous, c'est le gel. Juste comprendre votre position. Qu'est-ce que vous allez tenir, là?
Les droits de scolarité.
Vous, c'est le gel. Il n'y a rien à faire.
C'est ça. On veut geler les droits de scolarité et on maintient la facture, donc les frais administratifs, on maintient la règle, donc qui autorise, dans le fond, les universités à les augmenter entre 15 et 50 $ par année.
Si le PQ décide d'y aller avec l'indexation, allez-vous retourner dans la rue?
On n'est vraiment pas rendu là. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il
faut faire... Champagne, votre affaire, par exemple, dans la rue, ça a marché, là. Le gouvernement a reculé.
Oui et non, je dirais. Ça a fonctionné parce que ça nous a amené des élections, mais c'est pas la rue qui nous a amené un changement de gouvernement, c'est les jeunes qui sont allés voter et qui ont mis dehors les libéraux. C'est très différent. Il faut voir que
la rue, c'est poignée, des deux. Non, mais ça l'a intimidé l'État québécois. L'État québécois a été intimidé. Résultat, le gouvernement a reculé. Le gouvernement en place avait fait campagne avec des casseroles. Au bout du compte, c'est les étudiants qui ont gagné. Bravo,
en fait, je pense pas que personne n'a été intimidé. Là, c'était pas un mouvement intimidant. C'est un mouvement qui était revendicateur soi. Mais depuis quand au Québec, la revendication ou le poser des questions, c'est intimidant? Je pense qu'on est mûr pour un débat. D'ailleurs, on a vraiment jugé nos élus parce qu'ils étaient incapables de faire des débats qui se valaient. Mais justement, encourageons les débats au Québec, c'est une bonne chose. Mais il faut pas parler d'intimidation. Là, j'ai l'impression d'entendre Mme Christine Saint-Pierre qui nous accusait d'être intimidation et violence. Là, franchement.
Je parle surtout de Lancé. Je parle pas de vous personnellement, mais de Lancé. Que pensez-vous de Lancé et de son discours et de ses manifs et de l'usage du poivre de Cayenne en fin de semaine à Sherbrooke?
Écoutez, on a beaucoup de difficultés à comprendre là, pourquoi on veut faire partie des rencontres pré-sommet, mais on veut pas être là quand on va prendre la décision. Pour nous, c'est une situation qu'on s'explique pas. Pourquoi est-ce qu'on veut pas être au sommet pour défendre ses idées? Je veux dire, s'ils veulent défendre la gratuité scolaire, il va falloir qu'ils viennent la défendre devant les gens. Puis encore une fois, nous, on a décidé à la fin qu'on allait défendre les étudiants, qu'on n'allait pas laisser le gouvernement prendre la décision de façon unilatérale là-dedans ou encore les autres acteurs. S'il y a personne qui est là pour parler, pour discuter puis pour débattre, bien c'est sûr que les étudiants ne seront pas entendus. Et donc, on a déjà joué dans ce scénario-là. On ne refera pas ça une autre fois. Puis la fin, qu'on représente quand même 125 000 étudiants universitaires, on est le plus gros groupe jeune. Donc, c'est clair que pour nous, on ne joue pas la chaise vide pour être là.
J'ai une simple et bonne idée pour réduire la facture des étudiants. J'ai une bonne idée.
Pardon?
J'ai une bonne idée.
OK.
La voulez-vous?
Écoutez, allez-y, mais nous autres, on propose un gel.
Non, mais moi, je vais réduire la facture des étudiants. Je vais la réduire. On ne devrait plus obliger l'adhésion des étudiants aux associations d'étudiants. C'est une maudite bonne idée?
Ben, en fait, encore une fois, là, vous rentrez dans un débat sur la loi 32, les associations, la démocratie.
Oui, mais je vais alléger la facture. Je vais alléger la facture des étudiants. Ils ne seraient pas obligés d'être membres d'une association, mettons, qui est associée à l'AC, qui ne représente pas un étudiant.
Ils peuvent toujours se retirer, en fait, volontairement, justement, de cette adhésion, parce que c'est une cotisation non obligatoire. Et donc, ils peuvent aller se retirer, les étudiants, s'ils le désirent.
Ça, c'est pas vrai.
D'un autre côté...
Non, c'est pas vrai. Juste un petit peu, Jean-Claude, c'est arrivé, par exemple, au cégep de Saint-Hyacinthe, des étudiants qui n'avaient pas contribué à leur association étudiante, n'avaient pas versé la cote-part. Mm-hmm. Le cégep est parti après eux autres, là, pour récupérer le montant qui n'avait pas été payé, parce que ces étudiants-là disaient qu'ils n'étaient pas bien représentés par leur association étudiante, etc. Vous connaissez l'histoire. Ça a sorti il y a quelques mois de ça.
Oui, ça fait déjà un petit moment déjà, mais,
on est obligé de payer.
C'est un peu complexe, mais on peut se retirer, il y a un moment pour le faire, à chaque début de session d'ailleurs, pour certaines associations. Est-ce que, au lieu de revoir certaines façons de faire, je veux dire, je pense comme n'importe quel groupe, il faut effectivement se poser des questions, voir qu'est-ce qui aurait pu être fait mieux, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Je pense que c'est une bonne façon de faire, parce qu'on a besoin d'aller devant les tribunaux pour avoir des débats à chaque fois. Je ne crois pas. Des débats peuvent se faire à l'interne. Et c'est encore d'autant plus courageux d'aller faire les débats avec les personnes en face plutôt que de mettre des tribunaux. Là,
est-ce que Laurent Proulx manque de courage?
Pardon?
Est-ce que Laurent Proulx manquerait de courage?
Ben, en fait, moi, je l'invite plutôt à aller faire des débats avec les personnes concernées, plutôt qu'encore une fois, aller devant les tribunaux.
Ouais, mais c'est reconnu.
Je trouve qu'effectivement, ça prend du courage pour aller débattre face à face. C'est d'ailleurs ce qu'on reproche actuellement à la C de ne pas se présenter au sommet et d'aller débattre avec les gens. Je veux dire, on peut pas crier d'un côté puis faire exactement la même chose de l'autre.
Ouais, mais il a le droit d'aller se défendre d'une cour de justice au bout du compte.
Oui, il peut le faire, mais comme je vous dis, je pense qu'au Québec, on a décidé qu'on était différent en fait de d'autres pays qui ont toujours recours aux tribunaux pour régler leurs problèmes. On est capable de se parler, profitons-en.
Ouais, mais c'est une société civilisée. On a des tribunaux qui ont l'air anarchiques, d'ailleurs.
Qui ont été d'ailleurs un peu trop surutilisés dans le cadre du conflit étudiant. On aurait dû se parler davantage. Ça aurait probablement évité certains dérapages avec le gouvernement libéral.
Mais quand on essaie de discuter avec quelqu'un, puis que ça marche pas, puis que ton voisin il veut rien savoir, puis qu'il est bouché, puis que sa clôture elle va là, puis qu'il veut pas, puis que ben la solution finale, c'est d'aller devant les tribunaux. Moi, je suis pas sûr, le manque de courage, pas sûr. Là. Je pense que ça peut être une solution finale de dire, regarde, on va demander au juge de trancher.
Mais vous l'avez dit, c'est une solution finale.
Ben, c'est ça.
Moi, je me souviens pas d'avoir eu un débat avec M. Proulx, puis je me souviens pas non plus de cette démarche pour avoir des débats avec les associations étudiantes. D'ailleurs, je veux dire, il se présentait pas non plus dans cette assemblée générale. Donc, je veux dire, quelque part, les débats se font à certains niveaux. Il faut y aller. Il faut aller s'asseoir. Il faut aller voir avec les associations. Il y en a plusieurs, d'ailleurs, qui sont en train de faire une réflexion sur la démocratie étudiante.
Je sais pas, il y a une grosse réflexion à y avoir. Effectivement, ça fait dur à bien des places.
Écoutez, dire, on a été les premiers à critiquer certains votes, justement, dans le cadre au mois d'août, en disant, écoutez, ça prend plus d'étudiants pour aller voter, pour que ça soit représentatif.
Est-ce qu'on doit revoir ça, la question des quorums, entre autres? Tu sais, quand on est 15-20 d'une salle, là, puis on traîne un cégep de 2500 personnes, il me semble qu'il y a un problème là.
Mais je pense que c'est justement la réflexion que plusieurs ont fait, là, suite à la campagne de mobilisation. Ils se sont dit, bon, est-ce qu'il y a un moyen de, est-ce qu'on doit revoir nos règlements généraux? Et je vous avoue, bien honnêtement, qu'il y en a plusieurs qui, effectivement, sont en train de les revoir, en train de voir des façons de faire. Est-ce que ça veut dire que tout était mal fait? Loin de là. D'ailleurs, la majorité des assemblées générales au cégep, dans les universités, avaient quand même des quorums très enviables de 75%, mais c'était pas le cas de tous. Et effectivement, il faut se poser des questions.
Est-ce qu'on devrait être libre ou non d'adhérer à une association étudiante? Et pourquoi?
Mais écoutez, encore une fois, ça revient même à l'adhésion à des syndicats. On est dans un syndicat, on est dans une association pour se faire défendre ses droits, avoir accès à des services. Et je vous avoue, bien honnêtement, les associations étudiantes, c'est pas juste des questions de grève, là. Ils offrent des services, ils offrent des bourses. Certaines associations offrent même des bourses alimentaires aux étudiants qui ont de la difficulté. Et donc, il faut voir l'ensemble, en fait, des différents éléments. C'est des associations qui sont là pour défendre les intérêts des étudiants. Ils le font.
Oui.
Elles le font
très
bien.
Oh oui, je sais, des associations qui sont bien fines, qui font de belles jobs, là. Mais est-ce qu'on devrait être libre au Québec de s'associer ou non à une association étudiante?
Ben, encore une fois, là-dessus, je répondrai, quand vous êtes membre d'une faculté, vous êtes membre d'une association.
On est obligé.
Oui. Tout à fait.
Ben, c'est ça, vous disiez le contraire
tantôt. Des éléments qu'on s'est donnés pour pouvoir se défendre en tant que groupe. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, on peut avoir des débats là-dessus.
Bon, on est poigné. On n'a pas le choix, on est poigné, on est obligé de s'associer. On est obligé de payer la cotisation. C'est ça que vous dites.
En fait, on est obligé de. On peut se retirer, comme je l'ai dit, dans certains cas, effectivement, ça, au niveau universitaire, il n'y a pas de problème.
OK. Là, êtes-vous sur le tapis roulant? Vous avez l'air essoufflé. Ben, du
non,
monde
non,
qui
non, non. Ne vous inquiétez pas.
Allez, merci beaucoup, Mme Desjardins.
Mais ça fait plaisir à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Martine Desjardins de la FEUC. Pour elle, pour eux autres, c'est clair que c'est business as usual. C'est une leader syndicale. C'est pas une grosse surprise, là.
Non.
On irait demander la même chose. On aurait demandé la même chose à Henri Massé ou à Claudette Carbonneau. Est-ce qu'on devrait abolir?
Non, c'est les mêmes discours.
C'est le même discours.
C'est comme ça. Puis c'est un moyen. Et c'est tout le temps l'englobage de tous, là, t'sais. C'est le moyen qu'on s'est donné en tant que peuple québécois pour être différent. Et là, le manque de courage de Laurent Proulx, je m'excuse.
Non.
Avez-vous déjà essayé d'aller confronter une association étudiante dans une réunion d'association au cégep à l'université? Bonne chance!
C'est une question...
là, ils sont 12 en avant de nous autres à faire des faces de bœuf.
Non, mais c'est une question de droit. Si tu veux défendre tes droits, si tu veux modifier une formule d'adhésion, c'est le tribunal qui va faire ça. Parce que c'est le tribunal qui est légitimé pour évaluer, pour analyser le droit du travail, le droit d'association,
non,
etc.
C'est bien mieux d'aller discuter. Ben oui, t'arrives là avec ta proposition. Ah, parfait, on passe au vote. Ils sont 12 à lever la main, puis ça finit là. Merci. Bon, ben, bonne chance la prochaine fois.
Laurent Proulx est courageux. Êtes-vous allé déjà dans un palais de justice pour une autre chose que d'aller payer une amende? Excusez-moi, là. Laurent Proulx est courageux, puis avec un collègue Bergeron, là, je le connais pas, lui, ce Bergeron-là.
Miguel, ça?
C'est Miguel Bergeron, ouais. On connaît pas. Ils ont déposé une requête, OK, en cour supérieure. En fait, ça va se faire ce matin. Ça vise à faire cesser l'adhésion ainsi que la cotisation obligatoire à une association étudiante. C'est une atteinte directe, ce qui se passe actuellement, selon eux, et je suis d'accord avec eux, une atteinte directe à la liberté d'association, à la liberté de penser, telle que stipulée dans les chartes canadiennes des droits et libertés. Watch out!
Sais-tu où est-ce que ça se fait, ça? Entre autres?
Ça se fait ça au palais de justice.
Non, dans d'autres pays où on a droit de choisir son association ou de pas y aller.
Ben, de plus en plus aux États-Unis.
Non, mais non, surprenant.
Right to work au Michigan.
En France, les étudiants sont pas obligés. Ils peuvent choisir leur association. Il y a pas de cotisation obligatoire. Ils choisissent, ils font ce qu'ils veulent. C'est spécial. Là. La France, qui est notre supposé modèle infini, là. On veut tout le temps tout calquer sur la France. Là.
Liberté, si votre association étudiante vous défend bien, si votre association étudiante est bien gérée, si votre association étudiante a des positions sensées, si vous croyez que vous avez besoin d'une association étudiante, mais vous contribuez, c'est quoi, c'est 10-15 piastres, c'est pas énorme.
C'est pas compliqué, c'est symbolique. Tu vas au bureau, là, si je veux être membre, parfait, c'est 15 $.
Je vais être membre, à ce moment-là, si j'ai du trouble, je vais me faire défendre par eux autres. Mais encore là, si j'ai du trouble, c'est quoi, si j'ai du trouble? T'sais, je veux dire, si t'as eu 62 en masse, d'après moi, l'association étudiante ne peut rien pour toi.
Non.
J'ai jamais compris l'importance d'une association étudiante à l'université. Moi, l'université, c'était pas très compliqué, là. Mais c'est pas nécessairement bien différent dans l'Ouest canadien qu'ici, là. J'arrivais avec mon sac d'école.
Ouais.
Il était à 10h moins 10, et le cours était à 10h. J'ouvrais mon sac.
Un cours que tu payais, là, d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Très cher.
T'étais pas payé, là.
Ah non, les frais de scolarité à BC en 90 étaient plus élevés qu'aujourd'hui au Québec.
Okay.
Je prenais mon cahier. Je l'ouvrais, le prof fermait la porte, donnait son cours. J'écrivais.
Essayait de comprendre.
Oui. À la fin du cours, on allait à la maison, j'étudiais.
Puis à un moment donné, tu avais un examen.
Oui. Puis à un moment donné, j'ai eu mon diplôme.
C'est ça. Là, tu passes ou tu passes pas.
En décembre 93. C'est ça, okay. Exactement. Okay. Ça s'est fini là. J'ai gradué en décembre 93. J'ai reçu mon diplôme par la malle au mois de mars d'un beau carton. Puis je l'ai mis sous le mur.
Syndicalisme étudiant, c'est spécial. C'est déjà, à la base, du principe de base, là, que c'est un service pour lequel on paye. Là. C'est pas une job qu'on a, puis on se fait pas... En tout cas, moi, j'ai connu personne qui a dû aller laver les toilettes ou faire de quoi qu'il a pas aimé à l'école. Là, qui,
exact.
On donne des cours.
Oui, c'est ça mon point.
Pas mal ça. Là. Puis là, quand on nous dit, ouais, mais il y a des associations... En passant, elle l'a mentionné. Certaines associations étudiantes donnent des bons pour manger à des gens pauvres. OK, premièrement, certaines, c'est bien de le mentionner, qu'il n'y en a pas beaucoup qui font ça. La plupart du temps, une association étudiante, ça sert à nous organiser deux parties par année. Un à chaque session.
Surtout au cégep.
Acheter de la bière, puis de la pizza pour la gang.
Ce sont des camps d'entraînement pour les syndicats.
C'est ça.
Ce sont des regroupements spécialisés dans le pognage de cul. That's it. That's it. Surtout au cégep, là. Surtout au cégep, là. Bravo à Laurent Proulx. On lui souhaite bonne chance. 10h29. Vous êtes dans Morin Live.
Radio. Morin. Live. Légende. Légende du rock. Légende du rock. Samedi et dimanche, 10h, Radio X.
Une présentation de l'Euphorie. Venez en profiterole, brunch gastronomique, avalanche de fruits frais, déjeuner d'affaires pour le plus grand choix de déjeuner au Québec. L'Euphorie, 850 boulevard Pierre-Bertrand.
Il a pris du fric qui m'appartient.
Débarrasse, t'entends du sang?
Dis-moi où ils sont.
Pour récupérer ce qui lui appartient.
Je peux peut-être vous aider pour une toute petite part.
Il sera prêt à tout. Jennifer Lopez.
Déshabillez-vous.
Quoi?
Je dois savoir si vous portez un micro.
Jason Statham.
Vous êtes qui?
Parker. Dès vendredi.
Du 1er au 3 février au Salon de la Moto de Québec, l'école de moto Guillaume Blais sera sur place avec une surprise unique. Un simulateur de conduite de moto. La première école au Canada à en avoir un. Venez rencontrer notre équipe de passionnés et venez faire l'essai de notre simulateur sur place. Inscrivez-vous dès maintenant pour le prochain cours théorique débutant le 22 février et ne manquez pas nos journées portes ouvertes les 23 et 24 mars pour des réponses à toutes vos questions. Info au 88-531-4040, 531-4040 ou sur lecoledemoto.com.
Pourquoi payer le plein prix quand Lévico Hyundai vous offre l'escompte d'amis et famille des employés? Roulez en tout nouveau Santa Fe 2013 à partir de $85 par semaine sur 96 mois, incluant le rabais de $1,150, les taxes et la préparation. Plus remarquable que jamais, le nouveau Santa Fe offre à la fois raffinement, technologie de pointe et agilité exceptionnelle. Et avec l'escompte d'amis et famille des employés, tout le monde veut faire partie de la grande famille Hyundai. Détails chez Lévico Hyundai. Route Kennedy, Lévis, lévico.ca.
Radio, la fameuse Radio X.
Le Château Mont-Saint-Anne vous propose son rabais d'hiver. Jusqu'au 15 février, réservez deux nuits en ligne du dimanche au jeudi et épargnez 20% sur l'hébergement avec le code promotionnel HIVER. Détails sur châteaumontsaintanne.com.
Château Mont-Saint-Anne, t'es mon genre.
Pour une carrière palpitante dans le domaine médical, joignez-vous au groupe Bertec, une entreprise qui conçoit et fabrique des équipements médicaux innovateurs. Nous recherchons deux ingénieurs mécaniques et un technicien concepteur qui ont le souhait de rejoindre une équipe talentueuse. Postulez